France Inter.
Le 18-20. France Inter crève l'écran. Fabienne Sintès.
Tout au long de cette journée spéciale écran sur France Inter, on a compris combien nos enfants sont accros, comment il faut essayer de les détacher de ce lien infernal avec leur téléphone. C'est pas la première fois qu'on entend ces choses-là, mais c'est important de le redire. On a compris aussi qu'on parle vraiment d'addiction parfois et où tout cela peut mener. On a entendu les médecins parler de perte d'attention, d'impact sévère sur le cerveau des plus jeunes, des impacts qui peuvent être durables. Ça fait peur, hein. Et sinon, combien de fois j'ai levé le nez pour regarder si j'avais une notification dans les à peu près 20 minutes qu'il me faut pour écrire l'introduction du téléphone sonne, et ben au moins une fois, tiens, à cause du tong qui résonne à chaque fois. Est-ce que j'ai ouvert la notification? La réponse est oui. Est-ce que j'ai pris mon téléphone et scrollé ici et là pour occuper les 30 secondes de marche qui me séparent de l'ascenseur pour aller acheter à manger? À votre avis, on est tous très bons pour expliquer que le téléphone, c'est très très mauvais pour les enfants, mais nous, les adultes, arrêtons aussi de nous raconter des histoires. Qui pose son téléphone sur la table au restaurant? Qui est incapable désormais de regarder un film à la télé sans être en même temps sur Insta ou n'importe quel autre site d'ailleurs? Pareil pour un livre. Qui va aux toilettes avec son téléphone? Ne prenez pas cet air effaré. Une personne sur deux est dans ce cas-là. Avec vous qui nous écoutez et qui prenez vos téléphones sur vous aux toilettes, on pourrait remplir 5 fois le Stade de France. Qui scrolle un petit coup, allez comme ça, avant d'aller dormir, juste 5 minutes, avant de lever le nez et de constater qu'on vient de perdre une heure de sa vie? Qui s'enferme dans des algorithmes autant que les plus jeunes? Nous-mêmes, les enfants nous voient. Comment les obliger à lâcher leur téléphone si on ne lâche pas le nôtre? À nous, les adultes, de balayer aussi devant notre écran. C'est ce que nous allons essayer de faire. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on commence par une note vocale. Ce soir, c'est celle de Sophie que l'on découvre ensemble.
Bonjour, le téléphone sonne. Je voulais laisser mon témoignage. En fait, j'étais accro à Instagram. J'y allais 5 minutes, mais en réalité, je passais une heure où je me disais, mais j'ai gâché ma vie. Je gâchais des heures de vie. Et c'était devenu tellement stressant dans ma vie de tous les jours, car je pouvais plus faire mes tâches, rien me stressait, j'avais la sensation de ne jamais avoir le temps de rien, tout me dépassait. Et quand c'est devenu trop, j'ai désinstallé l'application et vraiment je me suis dit je n'en veux plus. C'est comme un déclic, comme quand on est drogué, c'est une addiction. Et après la désinstallation de l'application, c'était vraiment un gros manque. Plusieurs jours, peut-être une semaine, un manque, ou de se dire mince, ma vie est si vide, si creuse. Et petit à petit, les activités sont revenues, la vraie vie est revenue, et avec son lot d'activités quotidiennes, mais surtout une décroissance drastique de mon stress, de mon anxiété, tout est possible. Et en fait, ces réseaux nous bouffent notre vie. Donc, c'est possible, il faut tout supprimer et retrouver sa vie normale dans le vrai monde.
Merci beaucoup pour cette note vocale, Sophie. C'est dommage qu'elle n'ait pas laissé son âge, Sophie, oui. Parce que je suis assez curieuse de savoir quel âge elle a. Je vais vous présenter, Sophie, et vous tous qui nous écoutez, les invités qui sont autour de cette table. Il y a Virginie Sassoon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes co-autrice avec François Saltiel d'un livre qui s'appelle « Faire la paix avec nos écrans » chez Flammarion. C'était l'année dernière ou quasiment en 2024. Serge Tisseron est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, vous êtes docteur en psychologie, créateur de repères pour apprivoiser les écrans en fonction des âges. Vous êtes aussi coordinateur de l'ouvrage « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» Moi, ce qui me frappe, donc avec Sophie, et elle n'est pas toute seule, hein, Sophie qui est bien sûr une adulte, peut-être commencer avec vous, Virginie Sassoon, c'est qu'elle a effectivement le même vocabulaire que moi je pourrais avoir en ayant arrêté de fumer, qu'on peut avoir quand on est en dry January et qu'on arrête de boire très subitement après les réveillons, ou même que pourrait avoir un drogué. C'est le même vocabulaire. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on en est même là, nous aussi les adultes, à ce côté accro qui ressemble à ça?
Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience collective de cette saturation. On arrive à un moment où, en fait, cette surconnexion, elle produit une forme d'épuisement. Et ce que je trouve intéressant dans cette note vocale, c'est qu'il y a aussi beaucoup de joie dans le fait de réussir finalement à se libérer et de montrer aussi que c'est possible. On touche aujourd'hui notre téléphone entre des centaines de fois par jour. Certaines études vont jusqu'à 500 fois. On scrolle l'équivalent de 3 marathons, 140 45 km par an. Donc, quand on prend conscience de cette saturation, je pense que c'est absolument vital de se dire que la déconnexion, elle doit pas être punitive, mais elle nous amène vers la joie, vers l'amélioration de la qualité des liens que l'on a à soi-même et aux autres.
Elle a 40 ans, Sophie. Elle vient de nous renvoyer un message sur WhatsApp pour nous donner son âge. Ce qui est frappant, et encore une fois, il y aura d'autres auditeurs dans ce cas-là ce soir, c'est que la solution de Sophie, ça a été de se désinstaller. Ça veut dire que il ne faut que la méthode forte, en fait. On ne peut, même nous, les adultes, on a du mal à se réguler, exactement comme on s'interdit de casino. On ne sait pas faire à moitié, c'est tout ou rien. Est-ce que c'est ça que nous a donné, si je puis dire, cet écran-là? Le tout ou rien, en fait.
Oui, alors il faut comprendre que l'être humain est une créature d'habitude. Mm-hmm. On est tous très attachés à nos habitudes, on est attachés à certains vêtements, on est attachés à certains objets, à certains trajets, on a de la peine à en changer. Mm-hmm. Et donc, évidemment, c'est du pain béni pour les fabricants de ces outils numériques qui vont mettre des algorithmes, qui vont nous pousser dans nos habitudes. Mais voyez, finalement, vous avez raison, elle décide de tout arrêter. Mais en même temps, elle réussit. Mm-hmm. Or, vous savez bien que quelqu'un qui arrête brutalement le tabac, et il rechute un grand nombre de fois avant d'arrêter complètement. Mm-hmm. L'alcoolisme, ça se guérit avec un protocole médical. Donc on voit bien en même temps qu'il ne s'agit pas d'une addiction au sens produit chimique. Mm-hmm. Il s'agit d'une habitude, alors qui a des caractères qui sont ceux de l'addiction, mais qui n'est pas une addiction proprement dite, parce qu'elle réussit. Donc c'est ça le message positif. Non seulement elle est joyeuse, mais en plus elle y est arrivée, elle n'a pas rechuté, ça montre que c'est possible. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'elle dit qu'elle a pris cette décision seule, et je crois que c'est très important dans ces cas-là de faire valoir sa décision à l'entourage, de se transformer presque en militant de cette cause, de manière à ce que l'entourage puisse nous accompagner, qu'il ne nous contrarie pas, que tout le monde ne se mette pas sur son smartphone si nous, on décide de parler avec eux.
Mais vraiment, comme quand on arrête de fumer, hein, pardon, oui. Parce que soyez gentils, allez fumer sur le balcon, ou soyez gentils, prenez un jus d'orange quand il s'agit d'alcool. Virginie Sassoon, il y a quelque chose de très impressionnant quand il faut effectivement se désinstaller, en fait. La seule manière d'être plus fort que les GAFAM, même quand on a 40 ans, qu'on est Sophie, qu'on est nous tous, hein, qu'on est adultes, ça veut dire qu'elles sont plus fortes que nous, de toute façon.
Oui.
Donc on est obligé d'y aller avec une méthode forte et quitte à se faire du mal, comme le dit effectivement Serge Tisson.
Non, mais effectivement, je pense que le constat qu'on peut poser, c'est que l'autorégulation fonctionne très mal parce que...
Nous les adultes, c'est ça que
oui,
ça veut
bien
dire,
sûr, ouais. Les industries. Et après, je trouve aussi qu'il faut se mettre des standards d'exemplarité réalistes. Il y a beaucoup de parents qui se sentent découragés, beaucoup d'adultes qui se sentent découragés parce qu'ils n'arrivent pas justement à atteindre cet idéal de régulation, d'usage serein, conscient avec les écrans. Donc il faut aussi, chacun, en ayant conscience aussi de sa réalité professionnelle, sociale, pouvoir mettre des standards qui sont réalistes. Sinon, ça produit du découragement. Et je crois aussi que c'est extrêmement motivant de le faire à plusieurs. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements citoyens qui sont lancés par des jeunes. Et je trouve que c'est réjouissant que ça vienne de cette génération qui a aussi grandi avec les réseaux sociaux, qui appelle vraiment à cette joie de la déconnexion, simplement pour passer du moment ensemble, parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin et autant envie d'être ensemble.
Mm-hmm. On va y revenir, effectivement. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, cher Tisseron, sur cette histoire d'être ensemble. Ce sont des outils très perso. On voit, dans toutes les familles, ça existe, hein. Tout le monde est réuni dans la même pièce, mais tout le monde est sur son propre écran. Il n'y a plus rien de commun là-dedans.
Oui, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai rencontré récemment des jeunes salariés qui prennent leur repas de déjeuner autour de la même table, et ils ont finalement décidé ensemble de tous mettre leur téléphone en mode vibreur. Mmh. Évidemment, les téléphones vibrent et le premier qui prend la communication paye l'addition.
C'est bien.
Je trouve ça formidable. Ouais. Parce que tout seul, on est faible, mm-hmm. parce que les GAFAM sont très très puissants, donc il faut arriver à créer ce genre de contrat. Ou alors tous les soirs on met son téléphone mobile sur un rack ou sur le chargeur ou sur un buffet de la cuisine, de manière à pas l'emmener dans sa chambre pour pas être tenté de le regarder la nuit.
Voici Alicia qui nous attend. Bonsoir Alicia.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien moi ça fait 10 jours sur les conseils d'un ami Camille qui m'a dit bah écoute tu peux limiter son application à 30 minutes sur ton téléphone.
Oui.
Et effectivement j'avais l'habitude de consommer pendant un certain temps sans m'en rendre compte Instagram. Et là au bout de 30 minutes ça stoppe. J'ai la possibilité ou de continuer ou de m'arrêter. Et je joue le jeu, je m'arrête et finalement je passe à autre chose.
Mm-hmm.
ce qui me permet en fait d'être à la fois sur Instagram parce que j'aime être sur les réseaux et en même temps de ne pas me sentir prise en otage devant un écran pendant une heure, parfois une heure et demie. Enfin, c'est sans fin, quoi.
Ouais, non, je vous comprends totalement, Alicia, parce que moi aussi, je suis capable de relever le nez en ayant vu des labradors, en me disant mais pourquoi ? Enfin, mais vraiment pourquoi ? Ce que je trouve, elle a raison, Alicia, il y a plein d'outils désormais. Après la mise en abîme dingue, Virginie Sassoon, c'est que ces outils, on les trouve sur l'écran qu'on est en train de regarder. Enfin, c'est quand même une sacrée mise en abîme, quoi.
Oui, on peut plus vivre sans écran. Ouais. Donc la question, c'est comment apprendre à mieux vivre avec. Aujourd'hui, on peut plus séparer complètement vie en ligne et vie hors ligne. Et c'est ce qu'on montre d'ailleurs avec François Saltiel dans ce livre. C'est-à-dire qu'on part d'un constat qu'on est dans un monde connecté, ça ne va pas s'arrêter. Donc l'idée, c'est aussi de vivre en harmonie à la fois en ligne, dans nos vies en ligne, qui sont où on a des émotions qui sont vraies, où on a des rencontres qui sont réelles et qui nous produisent parfois des émotions positives, parfois des émotions négatives. En tout cas, le fait est qu'il faut prendre en compte cette réalité comme étant partie intégrante de notre réalité. Mmh. Et donc, il y a plein d'outils qui nous permettent de limiter et sur l'écran, et puis effectivement il y a des outils aussi, se déshabituer à travers des petits défis, d'éloigner les écrans à travers des boîtes de déconnexion, comme par exemple le projet Croc-Écran qui fonctionne très bien, où on construit une boîte et puis voilà, ouais. Ça devient quelque chose qui est un défi du quotidien.
La mise en abîme dingue quand même, c'est que, on en parlait tout à l'heure au bureau, parce que ça arrive sur le fil Instagram de notre chef Philippe, figurez-vous, sur le fil Instagram, on voit des boîtiers qu'on place dans la maison, sur lesquels on peut mettre le téléphone et qui permet d'être... Et c'est Instagram, ce réseau dont on veut se décrocher, qui nous les envoie eux-mêmes. Là aussi, on a quand même l'impression que le diable se mord la queue, Serge Tisseron.
Oui, les Anglo-Saxons ont créé un syndrome qu'ils appellent « Mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici ?» C'est-à-dire, vous allez sur votre smartphone pour faire quelque chose, et puis tout d'un coup, souvent beaucoup de temps d'ailleurs, vous croyez que c'est court, mais ça a été long, et vous ne savez plus comment vous êtes arrivé là. Ça, je crois que c'est important aussi, chacun, qu'on se fixe comme règle de ne jamais ouvrir un écran, parce qu'il n'y a pas que les smartphones qui posent ce genre de problème. Le défilement des vidéos sur Netflix, ça peut nous emmener très tard pendant la nuit. Mmh. Ne jamais allumer un écran sans savoir à peu près combien de temps on va y passer. Mmh. Savoir qu'on va
est-ce qu'on y cherche peut-être, en fait si on sait ce qu'on cherche, parce que sinon on est mangé par l'algorithme.
Exactement. Ouais. Savoir combien de temps on va y rester et savoir qu'est-ce qu'on y cherche, qu'est-ce qu'on va regarder. Ne jamais ouvrir un écran, ouvrir un programme et se fixer une durée qu'on va forcément dépasser. Mais si on s'en fixe pas, on va dépasser énormément. Si on s'en fixe une, avec un peu de chance, on dépassera pas trop.
Mais ce que ça veut dire, c'est que puisqu'on parle beaucoup des enfants, parce que là, alors, par ailleurs, les problèmes d'attention touchent aussi les adultes, pour dire la chose très clairement. Les enfants, évidemment, c'est plus grave, surtout sur les cerveaux en formation. Ce que ça veut dire, c'est que si on décide de restreindre les enfants sans se restreindre soi-même, ça n'a pas de sens. Exactement comme on disait tout à l'heure, Virginie Sassoon, qu'il fallait, recréer du commun, en fait, y compris avec nos écrans, mais recréer du commun. Si on ne crée pas du commun dans les interdictions, dans les limitations... On va nulle part, en fait.
Et puis c'est aussi la question de l'exemplarité. Je crois que c'est ça qui nous met aussi beaucoup en difficulté quand on est parent. C'est notre incapacité parfois à pouvoir libérer du temps sans écran pour justement incarner cette exemplarité, justement cette parentalité numérique un peu idéalisée et qui nous met aussi en porte-à-faux. Et je pense qu'un des premiers chemins à faire aussi, c'est de pouvoir être dans cette vision assez réaliste de ce que l'on peut faire pour préserver des temps, des rituels, des oasis de déconnexion dans la journée, en étant aussi, comme je le disais tout à l'heure, pas trop ambitieux au départ.
Est-ce que c'est une question que vous posez aux parents quand vous voyez des jeunes gens, chers Tisseron, et vous ? Est-ce que vous leur dites, et vous ? Quels efforts faites-vous de votre côté ?
Mais bien sûr. Il y a quelques années, j'avais mené une recherche auprès de jeunes de 8 à 12 ans qui n'avaient pas de smartphone, et on leur demandait, mais qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie familiale ? Ils répondaient tous que nos parents arrête d'être sur leur smartphone quand on leur parle. Il y en a même un qui avait demandé ça comme cadeau d'anniversaire à son père.
Oh là là.
Alors ça, évidemment, c'est le problème de l'exemplarité. Mais il faut comprendre que quand les parents sont sur leur smartphone, ça n'a pas que des conséquences du côté de l'exemplarité, de l'enfant qui regarde le smartphone comme un objet de convoitise maximum. Ça a aussi des effets sur le développement de l'enfant. Vous savez, c'est ce qu'on appelle de ce nom un peu barbare, la technoférence. L'interférence d'un outil numérique, d'un smartphone, entre un enfant et un jeune enfant. Un très jeune enfant, il a besoin de se socialiser, d'apprendre le langage. Et les parents savent bien, quand on parle à un tout petit, on parle pas comme un adulte. On module les phrases différemment, on découpe les syllabes, on a une voix un peu plus chantonnante, on le regarde dans les yeux, on voit s'il comprend ou pas. Dès qu'un parent partage sa communication entre son smartphone et son bébé, son jeune enfant, il va évidemment avoir des mimiques plus pauvres, puisqu'une grande partie de sa curiosité est capturée par son smartphone, des mimiques plus pauvres, des phrases plus courtes, il va avoir une intonation plus plate, et ça, il a été montré que c'est très perturbant pour le jeune enfant. Très perturbant. Ça peut entraîner des troubles semblables à ceux qui sont provoqués par le fait d'abandonner un enfant seul devant la télévision. Mmh. L'enfant n'apprend pas à communiquer. Donc, vous voyez, il y a le problème de l'exemplarité, mais il faut alerter les parents dès qu'une maman, dès que des parents décident d'avoir un bébé. Il faut vraiment les alerter sur ce problème-là qui peut avoir des conséquences graves, durables chez l'enfant.
Il y a même une étude australienne qui a quantifié le nombre, en une heure d'écran, le nombre de mots perdus, de vocalises perdues dans la capacité à échanger par rapport à un moment d'une heure sans écran entre un parent et un enfant.
Réaction d'Élise qui nous écoute sur WhatsApp et qui dit ceci: je pense que nous ne sommes pas tous sensibles à l'addiction. J'ai Instagram, j'y vais de temps en temps quand j'ai fini mes autres activités. Pareil pour les autres applications ou le tabac et l'alcool. Je n'ai fait aucun des deux pendant des mois parfois. Tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon et je pense que c'est important de se connaître évidemment que les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Et tant mieux. Élise, elle me fait penser à ces gens qui savent manger une seule cacahuète à l'apéro. Elle a tellement de la chance.
Il faut connaître son âge aussi. Peut-être qu'elle a commencé tard sur les réseaux sociaux. Plus on a eu des habitudes à ne pas y aller, plus en effet on peut en faire un usage modéré.
Tôt aussi, parce qu'il y a toute une génération de post-adolescents, on pourrait dire, qui ont été un petit peu dégoûtés, saturés, parfois qui ont vécu des épisodes de cyberharcèlement et qui sont vraiment maintenant en train de... Voilà, avec cette tendance d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur TikTok, des dumb phones, de retour vraiment à être sur du low-tech, des moments
qui dessinent un nouvel art de vivre
qu'on a intensément besoin aujourd'hui.
J'en profite pour faire une petite page de publicité pour un mouvement européen de jeunes qui s'appelle Control Alt Reclaim. Control Alt Reclaim sont des jeunes de 15 à 25 ans, justement, qui ont décidé de changer la relation aux outils numériques et avec comme slogan « Les GAFAM ne nous détruiront pas ».
Voici Batoula qui nous attend. Bonsoir Batoula.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir et merci pour vos émissions. J'avais un témoignage à apporter puisque donc moi j'ai 53 ans et je suis sur Instagram depuis 6 ans, depuis que ma fille, quand elle avait 18 ans, m'a sollicité puisqu'elle quittait la maison pour faire ses études ailleurs en France. Et elle m'a dit, viens voir, Instagram c'est très chouette, je vais faire des stories, ça va être, on pourra communiquer, etc. Et donc j'ai trouvé l'application très sympathique dans sa manière de communiquer et puis c'était très léger. Et donc j'ai aimé aussi être associée finalement à la vie de puisque j'en ai deux autres, mes enfants. Et je trouvais que c'était une manière de garder le contact d'une manière un petit peu différente. Et c'est vrai que je me suis j'ai multiplié mes abonnements, etc. Et donc c'est maintenant une de mes manières principales de suivre l'actualité avec des abonnements au Monde, etc. Mais je m'aperçois que je passe du temps, qu'en fait l'algorithme fait tout pour me garder un maximum de temps, en nous écoutant, en nous proposant des choses qu'on n'avait pas prévu de voir. Et c'est vrai que je suis obligée maintenant de... parce que je veux garder contact avec mes enfants, j'aurais envie de supprimer tout, comme la première auditrice. Et puis, en fait, j'ai pas envie de jeter avec, en fait, les avantages. Puisque mes enfants sont toujours, du coup, à l'extérieur. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile comme dilemme. Pour autant, du coup, j'essaye de mettre des barrières. Et je suis aidée en ça par mon fils de 16 ans qui est en pleine prise de conscience. Et je pense aussi que les jeunes, ils ont une forme aussi de prise de conscience en ce moment, en tout cas, que moi je vois. Et donc on fait ça en famille. Et comme vous le disiez auparavant, c'est plus simple de penser en famille, mais je pense que ça doit être... Il y a aussi des avantages, et c'est justement pour ça que les algorithmes sont puissants.
Merci beaucoup Batoula, vous avez bien raison, très grosse puissance des algorithmes, et il est bien le message de Batoula, Virginie Sassoon, parce qu'on revient à ce qu'on disait un peu au début, garder du commun, être ensemble, ça veut dire aussi parler de ce qu'on regarde les uns les autres, nous les adultes, mais aussi les enfants, partager du contenu, pourquoi pas au fond. La télé probablement est morte, à certains égards. Enfin, ce moment où on était tous devant et qu'on regardait, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut arriver à recréer ça avec nos écrans, finalement.
Oui, complètement.
Adultes-enfants, pourquoi pas.
Oui, on est dans un contexte aussi où le débat se polarise, se radicalise, où il y a énormément aussi de controverses scientifiques, où les gens ont du mal aussi à trouver une boussole assez claire, avec des repères qui correspondent aussi à leur réalité. Parfois, il y a des choses qu'on aimerait faire. Par exemple, quand on entend pas d'écran avant 6 ans et on a des difficultés, notamment dans le cadre de fratrie, hein, à mettre en place ces choses. Donc ça crée aussi parfois un petit peu de confusion. Et je crois qu'on peut ni être dans une technophobie radicale, ni dans une techno-béatitude un peu naïve, mais au contraire, porter un plaidoyer individuellement, mais aussi collectivement, pour un techno-discernement et essayer de tenir cette ligne de crête pour trouver un équilibre.
Il y a ce message de Serge sur WhatsApp qui dit une remarque. Les collègues qui assistent à une réunion de service mais qui sont sur leur téléphone, comment on fait ? J'ai l'impression, Serge Tisseron, parfois que ça nous a rendu très impolis, nous les adultes, cette affaire-là. Et donc forcément, les gamins font la même chose. Mais en réunion, il a raison, Serge, au resto, où le téléphone est sur la table. Ça nous a rendu très impolis, vraiment, quoi.
Oui, si vous parlez avec quelqu'un et que la personne, tout d'un coup, sort un sandwich de sa poche et détourne ostensiblement son regard et se met à manger sans vous regarder pendant que vous continuez à lui parler, vous allez avoir l'impression que c'est un sangouin, mais c'est impoli. Mais effectivement,
il peut sortir son téléphone, on ne sera pas étonné.
Mais autour du smartphone, il y a quelque chose qui est admis. Mais à quoi il ne faut pas s'habituer ? Alors, je suis très étonné pour la réunion, que l'organisateur de la réunion n'ait pas demandé que les smartphones soient mis en position veille. C'est quand même, si les gens ne le font pas spontanément, c'est vraiment la chose qu'il faut demander. Alors après, ce que je disais tout à l'heure au restaurant, c'est de l'organisation, c'est de l'auto-organisation du groupe. Mais dans les institutions, je pense qu'il faut aller au-delà de l'auto-institutionnalisation. Il faut que l'autorité institutionnelle demande que les moments d'échange institutionnels ne soient pas pollués par le fait que les participants puissent consulter leur smartphone quand ils le souhaitent. On peut pas interdire les smartphones dans les lycées et demander et laisser les employés être constamment sur leur smartphone pendant les réunions d'information.
Exactement, ou à l'intérieur de la salle des profs, quand on a interdit l'accès, même dans certains collèges, etc., parce que ça existe déjà au téléphone, mais on a l'impression, effectivement, Virginie Sassoon, que c'est aussi un effort pour les parents, pour les adultes, et pas seulement un effort, en fait, c'est plus que ça. Enfin, c'est vraiment un décrochage aussi pour les parents, mais pourquoi pas admettre le fait que c'est d'un décrochage dont nous avons, nous aussi, besoin, exactement comme nos enfants, en fait.
Nous, on est la première génération de parents qui avons élever des enfants qui ont grandi connectés aux réseaux sociaux. Ouais. Donc, on a découvert aussi plein de choses en même temps qu'eux. Et puis, il faut aussi rappeler que c'est nous qui équipons nos enfants de smartphones parfois avant l'âge de 10 ans. C'est nous qui partageons des photos d'eux sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'à 8 ans, près de 80% des enfants ont déjà une photo d'eux qui est postée sur un réseau social. Il y a 1300 photographies qui sont publiées avant l'âge de 13 ans. C'est une étude britannique qui le montre. Donc, c'est vrai que les parents, c'est un mouvement commun à faire ensemble. Il y a une maturité collective aujourd'hui qui oblige aussi les parents à vouloir sortir de cette conflictualité permanente qui, en fait, nous pourrit un petit peu la vie et abîme les relations.
Après, il y a de la taille, hein, parce que si je regarde un sondage qui a été fait sur 21 000 adultes, ça date de janvier 2024. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, on peut dire que les choses sont à peu près toujours claires. 6 utilisateurs sur 10, pardon, parlent de dépendance. 61% vérifient toujours s'ils ont une notification et leur présente, hein. Je suis totalement dedans. 60% craignent d'être privés de smartphone. Donc, il y a ce nouveau mot d'ailleurs qui est arrivé. Exactement. Monophobie, c'est ça ? La monophobie, panique, c'est-à-dire nomophobie, panique en cas de perte de téléphone.
La peur de rater quelque chose d'important.
Exactement, voilà, ça existe. 53% perdent la notion du temps. Là aussi, je suis obligée de lever le doigt. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on est en train de scroller sur Instagram et qu'on se rend pas compte qu'on y est depuis une heure. 33% utilisent leur smartphone en conduisant. Enfin, et ça, là, on parle vraiment d'adultes. Hein, on parle vraiment de comportement d'adultes. C'est très impressionnant, Serge Tisseron.
Oui, et en même temps, beaucoup de ces gens qui sont tout le temps sur un smartphone sont dans un grand désarroi. Il faut aussi dire que combien le monde d'aujourd'hui donne l'impression qu'un événement imminent peut toujours arriver, ou que nos enfants, il peut arriver à tout moment à nos enfants quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'angoisse.
Mais est-ce que c'est le prétexte, ça, Monsieur Tisseron, ou pas ? C'est-à-dire se dire, ouais, mais si je mens... Moi, le prétexte, il est tout trouvé, je suis journaliste, ah ouais, mais s'il se passe un truc... Alors que bon, s'il se passe vraiment un truc grave, on va m'appeler, ça va sonner, et je m'en rendrai forcément compte, enfin... Est-ce que coup, je joue pas aussi beaucoup sur les prétextes, en fait. J'utilise aussi mon appli pour travailler. S'il se passe quelque chose pour mes enfants, si le boulot m'appelle.
Oui, alors vous savez, il y a quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont les fameux biais cognitifs. Mm-hmm. La manière dont on peut être sensible à des messages qui nous arrivent. Les biais cognitifs, ils sont constamment utilisés dans la vie sociale. Parce que vous le valez bien, ben, c'est jouer sur la façon dont chacun se porte une estime importante à lui-même. Tout le monde est au courant, ben, c'est le biais de conformité sociale. Et il faut comprendre que les algorithmes, ils jouent sur tous ces biais. Ouais. Ils jouent sur l'estime que vous portez à vous-même. Ils jouent sur le fait que si tout le monde le sait, vous n'avez pas le droit de ne pas le savoir. Ils jouent sur le fait que tout est urgent à savoir. Ouais. Ils jouent sur le fait que vous êtes quelqu'un qui mérite le meilleur. Mmh. Et donc, du coup, vous voyez, tous ces biais s'accumulent et font qu'il n'y a jamais eu, dans l'existence des humains, un outil qui ait ce tel pouvoir de suggestion. Mmh. Parce qu'on parle de tout le temps que les gens passent sur leur smartphone, du fait qu'ils laissent toujours plus de données personnelles aux GAFAM, donc c'est la fortune, puisqu'ils les revendent, ils les recyclent, ils les troquent, etc. Faut pas oublier aussi que ce sont des outils de suggestion. Ce sont des outils par lesquels nous arrive la philosophie des gens et l'idéologie des gens qui sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Donc, le fait que nous soyons aussi soumis à une manipulation doit devenir beaucoup plus explicite dans le discours public, de manière à ce que les gens comprennent que non seulement on exploite leur temps de cerveau disponible, mais en plus on les prend pour des moutons qu'on peut gérer à coup d'algorithme. Et personne n'a envie d'être un mouton géré à coup d'algorithme. Il faut expliquer aux gens qu'il y a ça aussi dans les réseaux sociaux.
Et c'est un vrai argument. En effet, si on veut reprendre le contrôle de soi-même, en fait, contre ces algorithmes, c'est un bon argument. On est en train de parler d'écran et d'adultes ce soir au téléphone sonne avec Serge Tisseron, qui est psychiatre, docteur en psychologie, avec Virginie Sassoon, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication.
Le 18-20. Fabienne Synthèse, France Inter crève l'écran.
Et avec vous, Julien aussi, vous êtes à Nantes. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
On vous
Merci
écoute.
De prendre mon appel.
Je vous en prie, allez-y.
Moi je me suis remis à lire, je lisais beaucoup étant jeune, et récemment je lisais plus beaucoup, donc je me suis remis à lire déjà il y a un an, parce que j'ai fait le constat que, le soir j'avais beaucoup mon écran, et beaucoup plus tard, j'avais du mal à m'endormir.
Ah bah. c'est plutôt une bonne nouvelle si le téléphone. Si ça se trouve, il y a rébellion du téléphone de Julien qui lui a dit: ah, tu veux plus m'utiliser pendant que tu bouquines. Et ben voilà, boum. J'espère qu'on arrivera à le retrouver, mais la lecture, c'est un vrai sujet, Virginie Sassoon. On a tous vécu cette expérience-là. Peut-être que vous aussi. On a du mal à garder son attention sur son livre. S'il y a une notif qui sonne, on est obligé de mettre le téléphone à perpète dans la maison, comme ça on n'est pas ennuyé par une notif.
Oui, il y a une éducation à prendre conscience que notre attention n'est pas une ressource illimitée, que c'est une ressource qui est convoitée, marchandisée, et que effectivement on a un temps d'attention limité. Et sur la question de la lecture et de tout ce qui peut nous donner envie de sortir des écrans, il y a je pense aujourd'hui une attente très forte à l'endroit des alternatives désirables. Parce que quand on parle de déconnexion, d'interdiction, etc., c'est qu'est-ce qu'on va faire à la place. Et c'est dans cette à la place et dans cette alternative désirable que je crois qu'on a aussi un enjeu collectif, citoyen, de riposte à la fois effectivement intime, parce que ça commence par soi, le changement, mais aussi à le penser ensemble, à remettre nos corps en mouvement et nos esprits aussi en mouvement dans la lecture, mais aussi d'autres activités comme le sport, la danse.
On a retrouvé Julien, on va revenir sur le à la place et le combler le vide. On a retrouvé Julien.
Allez-y. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Excusez-moi.
Je vous en prie, allez-y.
Non, je suis d'accord. En fait, je voulais juste ajouter que c'est quand même encore un combat, parce que du coup, je me suis rendu compte que parfois, avec les notifications, je reprenais mon téléphone et puis après, j'allais sur les réseaux sociaux, puis les algorithmes.
Non, mais Team Julien, moi j'ai l'impression que c'est une lutte permanente, Julien également.
Oui, exactement. Et en fait, là maintenant, je me mets des règles, je coupe les notifications, parfois je laisse mon téléphone en dehors de ma chambre. Et pour continuer, en fait, plus être esclave aussi de son téléphone, et c'est un combat permanent.
Merci beaucoup, Julien. J'aime bien cette idée de combat, en fait, que nous dit Julien, parce que il faut avoir une volonté d'aller mettre son téléphone dans sa chambre et de retourner dans le salon pour lire, ou l'inverse, de quitte à l'éteindre, ce que je trouve génial chez Julien, mais beaucoup de gens font pareil, ils n'éteignent pas le téléphone, ils coupent les notifications, parce que éteindre le téléphone, c'est encore un pas supplémentaire. C'est quand même, non seulement c'est très impressionnant, mais il y a ce mot que vous avez prononcé tout à l'heure, à la place. Oui. Donc désormais, c'est comme s'il ne pouvait plus y avoir le début d'un vide, et que tout ce qui n'était pas activité autour d'un écran, c'est du vide, en fait. Alors que non.
Oui, alors d'abord, par rapport à ce qu'il dit, vous avez repris d'ailleurs, plus notre téléphone mobile est loin de nous, moins il nous accapare l'esprit. Mmh. Ça, c'est très important. Il suffit pas de le poser à côté de soi et de dire « je le retourne, je le regarde pas ». Parce qu'il continue à être présent dans notre tête. Plus on l'éloigne de soi, mieux ça vaut. Ça, la nuit, achetons-nous un réveil, mettons le téléphone mobile à l'autre bout de l'appartement. Alors sinon, oui, le grand problème, c'est l'alternative. Mmh. C'est très bien de réduire le temps d'écran, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont peu devant les écrans, mais personne ne s'occupe d'eux, et finalement, ils ont des troubles du développement. Mmh. Donc, il y en a aussi qui sont beaucoup devant les écrans, qui ont des troubles du développement, avec les écrans. Mais il ne suffit pas de supprimer les écrans, supprimer son smartphone, pour qu'on trouve tout de suite une autre chose à faire. Mmh. Et il faut reconnaître qu'en France, les espaces de jeu pour les enfants, ben, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je milite depuis des années pour que les cours de récréation des écoles et les gymnases des écoles soient ouverts le week-end, sous la gestion des associations familiales locales de quartier. Parce qu'il faut absolument que les enfants aient des espaces dans lesquels ils puissent bouger, ils puissent créer des règles de jeu ensemble, des espaces de jeu libres. Or, il y en a très très peu. Et donc, du coup, les enfants, en plus, souvent sont géolocalisés, puisqu'on parle des parents. Il y a des parents qui font cette erreur fatale de géolocaliser leur enfant.
Autre sujet, mais passionnant.
Qui encourage toutes les tromperies possibles, voilà. Et surtout, qui oblige les enfants à retourner tout de suite chez eux quand ils quittent l'école. Ce qui n'est pas une bonne chose pour favoriser leur socialisation, parce qu'à l'école, on est là pour apprendre, mais à la sortie, on discute avec les copains.
La peur du vide, Virginie Sassoon, c'est valable pour nous aussi. Moi, je suis d'une génération où il y a eu un avant téléphone et on n'avait pas besoin de se ruer sur quelque chose dès qu'on rentrait chez nous, dès qu'on dit dans une espèce de temps mort, en attendant je ne sais quoi, que la cuisine se fasse, etc. Là, on a l'impression que ça devient un abîme et presque un vide. En fait, si on ne fait plus rien avec son téléphone, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, y compris moi l'adulte en fait.
Oui, mais parce que le smartphone est arrivé à peu près il y a 20 ans dans nos vies, en même temps à peu près que les réseaux sociaux, donc c'est quand même beaucoup transformé nos vies intimes et collectives depuis 20 ans. Et c'est un écran, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, un écran total qui remplace un nombre d'objets aussi du quotidien assez fou. Et aussi dans nos modes de navigation, on est passé aussi du surf au scroll. Donc c'est-à-dire qu'on avait aussi au départ ce plaisir de surfer sur Internet, qui est une expression qui a été inventée par une bibliothécaire américaine et qui montrait bien, voilà, on passait de lien hypertexte en lien hypertexte avec cette magie de pouvoir découvrir, s'informer. Et là, on est dans un scrolling.
Quand on surfait, on était proactif, exactement. Quand on surfait, on était proactif, ou au moins, en tout cas, on voit apparaître un site. Ah oui, ça m'intéresse, qui nous amène à un autre. On lit où ça nous amène. Le scroll nous impose ce que nous voyons.
Ce phénomène de rabbit hole qui est le même principe que le terrier dans Alice au Pays des Merveilles, où on perd la notion du temps, le doom scrolling, qui est le même principe de terrier, mais qui nous enferme aussi dans des contenus anxiogènes dont on sait qu'ils nous font du mal, mais parce qu'il y a cette curiosité naturelle chez nous à vouloir en savoir plus. Et donc tous ces mécanismes addictogènes sont quand même très bien documentés aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de prise de conscience. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est quels moyens on se donne pour dessiner cet art de vivre. Serge, tout à l'heure, l'auditeur qui disait quid des réunions. Et effectivement, il y a aussi cette notion de se prendre en main collectivement dans les espaces de travail, mais aussi dans les espaces publics. Faites un petit défi d'essayer de ne pas regarder votre téléphone dans la rue et de
vous
sourire à un inconnu dans la rue.
J'allais vous emmener là-dessus. Moi, je fais partie de ces gens qui ont découvert le téléphone portable à un moment et qui ont dit très concrètement, de toute façon, je téléphonerai jamais dans la rue. Voilà où on en est aujourd'hui. Effectivement, on a l'impression que même dans la rue, ne serait-ce que avancer d'un point A à un point B sans avoir le téléphone à la main et sans scroller, ça devient presque un moment où on est dans la panique du vide, en fait. Mais qu'est-ce qu'on est devenu quand même, Serge Tisseron ? Et alors, on parle des enfants, on parle vraiment de nous, quoi, également.
Oui, bien sûr. Il y a tout ce qu'on dit depuis.
Est valable de 7 à 77 ans.
Sur les enfants, c'est totalement valable pour les adultes.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de ça, y compris dans la rue, en allant chercher le bus, ou etc., qui fait que le nez en l'air, quoi, nous fait peur, ou qu'on n'a plus envie de ça, ou que c'est trop banal, en fait, d'avoir le nez en l'air aujourd'hui, à votre avis ?
Oui, alors, on désapprend la rêverie.
Ouais.
Vous savez, quand on ne fait rien, on a des tas de choses qui nous traversent l'esprit, puis tout d'un coup, il y a une chose qui nous intéresse plus qu'une autre. On fait une sorte de surf dans sa tête, ouais. En fait. Alors, ce surf, il n'est pas toujours agréable. Pour beaucoup de gens, ce surf dans leur tête, il les amène à des pensées pénibles. Comment boucler les fins de mois, comment manger les parcours sup pour mon enfant, c'est d'actualité. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Trump, est-ce que les prix vont encore augmenter, etc.
Vous êtes en train de nous dire qu'on ne veut pas turbiner, on préfère qu'un algorithme nous turbine.
On n'est plus dans les 30 glorieuses, on pouvait avoir des rêveries, mes enfants vont faire de magnifiques études meilleures que les miennes, ils vont gagner plus d'argent que moi, je vais m'endetter pour une maison parce que je peux payer le crédit. On n'est plus dans des rêveries agréables. On est aujourd'hui dans des rêveries anxiogènes. Et les gens essayent de fuir ces rêveries anxiogènes sur leur smartphone, et le problème c'est que le smartphone les enferme.
Mais c'est ce que j'allais dire,
avec les algorithmes, dans ces fameux terriers de lapin, où s'ils commencent à s'intéresser à des vidéos un peu dépressives, les vidéos vont devenir de plus en plus dépressives et vont aggraver leur dépression. Si vous voulez, il y a un cercle vicieux là qu'il faut absolument casser. Mais je dirais encore qu'il ne faut pas vouloir changer trop de choses à la fois. Si on veut vraiment changer nos vies, il faut commencer petit. Il faut décider chacun un secteur. On va commencer, par exemple, débrancher ses notifications. À mon avis, c'est le béaba, c'est la première chose à faire. Ouais. Et si on y arrive, après, voir comment mettre en place autre chose et s'appuyer aussi sur ses proches, sur la famille, si on en a une famille, si, sur des amis, sur des collègues de travail, de manière à ce que les autres puissent nous rappeler la décision commune qu'on a prise.
Voici Laure, il nous reste peu de temps Laure, mais on a du temps pour vous, on vous écoute.
Bonsoir, merci. Je voulais simplement signaler que en tant que professeur au lycée, professeur principal en l'occurrence, j'avais initié un défi écran avec mes élèves dans l'objectif de limiter leur temps d'écran et principalement leur usage du téléphone, et que eux étaient vraiment les plus enthousiastes et ils étaient même un peu trop ambitieux à mon goût, mais ils sont très demandeurs en fait de cadre et qu'ils sont très très lucides sur toutes les émotions négatives qui peuvent être suscitées par les téléphones.
Merci beaucoup Laure, pardon, pour ce témoignage, parce que en effet, Virginie Sassoon, peut-être qu'on est à ce moment-là, vous l'avez dit, ça fait quoi, 15 ans maintenant qu'on a tous un téléphone, les réseaux sociaux, c'est un peu plus récent, on est peut-être arrivé à cette bascule où on sait que c'est difficile de s'en passer, mais on sait que c'est mal, donc on y travaille.
Oui, bien sûr, et puis je pense que cette conscience de ces fausses urgences connectées, de ce monde du multitasking, c'est le philosophe Hartmut Rosa dont on parle dans le livre, qui en parle très bien aussi, nous empêche de raisonner avec le monde, c'est son expression, et merci à la professeure d'avoir souligné ça, parce que pour nous, avec Françoise Altel, dans le livre, ce qu'on dit, c'est que la solution, pour nous, elle réside dans un triptyque et éducation. Éducation citoyenne aux écrans, à l'école, dès le plus jeune âge, et tout au long du parcours scolaire des élèves, de la régulation et une riposte intime et citoyenne pour dessiner cet art de vivre dont on a envie.
Ben écoutez, restons sur cette jolie conclusion et sur cet espoir. N'en profitez pas maintenant que le téléphone sonne et fini pour aller scroller comme des fous sur votre téléphone, parce que ce serait gâché vraiment. En général, les gens cuisinent à cette heure-ci, donc ça devrait aller. Merci à tous les deux vraiment pour votre participation. Merci à tous pour vos nombreuses questions.